rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous et à tous. L'été est enfin arrivé, oui, ça y est. Et pour le savourer du mieux possible, sans jamais vous ennuyer, voici nos derniers conseils de lecture et de films. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 4 romans, une BD et 2 films. Amy nous confiera ses 2 coups de cœur pour les films Swing Rendez-vous de Jérôme Barry et La fine fleur de Pierre Pinault. Yann nous recommandera les romans Mythos de Stephen Fry et Istanbul d'Orhan Pamuk, ainsi que la bande dessinée Dernier week-end de janvier de Bastien Vivès. De mon côté, je vous parlerai des derniers romans de Zoé Brisby et de Joseph Incardona, La double vie de Dina Miller et Stella et l'Amérique. Et c'est Yann qui ouvre le bal avec un roman qui nous plonge dans les profondeurs de la mythologie grecque.
Oui, Anne, donc je vais vous présenter aujourd'hui Mythos de Stephen Fry, roman, je ne sais pas, et c'est livre, voilà, on va dire livre, publié en 2017 au Royaume-Uni. Stephen Fry est un auteur, réalisateur, producteur,
scénariste,
lecteur. Il a notamment enregistré les livres audio de la saga Harry Potter. Il a également écrit et joué des sketchs avec son acolyte et meilleur ami Hugh Laurie, le fameux Dr House, dans A Little Bit of Fry and Laurie. Il a joué dans Blackadder avec son ami Rowan Atkinson et Hugh Laurie. Bref,
prolifique,
génial. Et là, je me suis dit, il va sur la mythologie grecque, qu'est-ce qu'il va nous pondre ? En fait, il va nous pondre toute la mythologie. L'histoire de la mythologie de A jusqu'au Z, à travers des petits chapitres qui expliquent comment se met en place toute la mythologie grecque. Et il le fait dans une langue moderne, sans vouloir jouer avec le modernisme à tout prix. Une langue simple, mais savante, qui du coup peut être appréhendée par les ados, les adultes, etc., etc. Sans changer l'histoire, sans en faire des caisses, sans faire du simplisme. C'est d'une richesse confondante, c'est abordable, c'est joyeux. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait le lien avec l'histoire de la langue, l'histoire de notre civilisation, en apportant des petites précisions, mais sans faire le prof. C'est-à-dire, pouf, il va ajouter une petite phrase ici ou là, ou de temps en temps une petite note. Et ça passe super bien. Notamment, j'avais relevé une des phrases où il le fait. Il parle d'Ouranos. Donc, Ouranos condensa toute sa fureur et son énergie divine dans la roche elle-même, dans l'espoir qu'un jour, une créature dotée d'un ton d'excavation l'arracherait du sol pour exploiter le pouvoir illimité qui en irradiait. Bien entendu, rien de tout cela ne devait arriver. Les dangers auraient été considérables. À coup sûr, il faudrait attendre encore longtemps l'avènement d'une espèce assez stupide pour tenter de libérer la pleine puissance de l'uranium. Donc voilà, il va montrer finalement le lien entre l'uranium, Uranus, Ouranos dans la mythologie et finalement comment tout un lien et que les mots ne viennent pas de n'importe où. Et ça, c'est jubilatoire. On a de l'épique, on a du poétique, on a de la réflexion. Il n'hésite pas notamment à parler des différentes déesses et de dire, bah voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment pas l'image d'une déesse parce que le côté déesse du foyer, etc. Mais attention, je vais vous apporter une précision qui va vous faire changer d'avis, etc., etc. C'est jubilatoire, c'est super plaisant, c'est savant. Les beaux jours reviennent, enfin. On sort les hamacs, on sort les chaises longues, on va aller à la plage. Ben, achetez-le, lisez-le. Vous avez même des portes, une galerie de peintures, de sculptures qui vous présentent des figures mythologiques. Donc en plus, on fait de l'histoire de l'art. C'est génial. Et tout ça pour 9,70€.
Oui, parce qu'il est sorti en poche.
Il est sorti en poche sous le titre Mythos, les mythologies grecques revisitées chez le livre de poche. Ils l'ont à l'excellente librairie des signes.
Et bientôt à la bibliothèque.
Et j'espère bientôt à la bibliothèque.
Merci beaucoup Yann, tu nous l'as bien vendu. Je pense qu'on va tous le lire cet été. Alors on va changer d'univers maintenant avec La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby. Zoé Brisby confirme son talent pour raconter d'une manière légère et pétillante des histoires passionnantes sur fond de grandes histoires. Ici, elle nous embarque en 1961 au cœur de la guerre froide en Alabama dans la communauté d'Huntsville où siège la NASA nouvellement créée et son centre spatial. Kennedy vient de lancer le programme Mercury et Apollo. Les brillants chercheurs œuvrent avec engouement pour l'avenir de l'Amérique et contrer les Russes. Ils préparent la fusée qui allait amener amener un Américain sur la Lune. La conquête spatiale était un véritable enjeu géopolitique. On retrouve l'ambiance des Mauvaises épouses, son précédent roman que j'avais déjà recommandé et qui nous plongeait dans l'intimité des femmes de scientifiques qui travaillaient sur la bombe atomique en 1952 dans le Nevada. Les femmes y sont de la même façon, cantonnées dans leur rôle de femmes au foyer, décoratives, subalternes. Elles sont le faire-valoir de leur mari, chercheur ou ingénieur, au cœur d'un royaume des apparences et des mensonges, caricature de la réussite américaine. Et c'est dans ce milieu que va s'introduire Dina, ou plutôt s'infiltrer. Car Dina Miller est une espionne, agent du Mossad. Sa mission est de faire justice et de traquer les anciens nazis. Là, elle doit identifier un médecin qui aurait travaillé dans les camps, surnommé le bourreau de Buchenwald, puis le neutraliser sans le tuer et l'exfiltrer afin qu'il soit jugé en Israël, comme l'a été Eichmann l'année précédente. L'auteur met ainsi en lumière l'opération Paperclip ou Overcast, quand les Américains ont recruté de nombreux savants allemands, les ont installés aux États-Unis, ont blanchi leur passé pour leur permettre de continuer leurs travaux scientifiques pour le compte de l'Amérique. Notre héroïne, au passé sombre et douloureux, mais forte et combative, a l'allure juvénile et inoffensive. Et elle se fait passer pour une veuve et embauchée comme serveuse dans un diner, lieu idéal pour glaner les informations et approcher les femmes des scientifiques. Je vous laisse découvrir la suite, qui est à la fois très divertissante et instructive, et interroge sur la légitimité de faire du mal au nom du bien, pour de bonnes raisons, jusqu'à quel point les expérimentations sur les animaux et les humains sont acceptables pour le progrès scientifique. Autrement dit, la fin justifie-t-elle les moyens ? Et pour autant, si les Américains n'avaient pas récupéré ces scientifiques anciens tortionnaires nazis, ce sont les Soviétiques qui l'auraient fait et auraient assuré la suprématie technologique communiste. Toutes ces questions, Zoé Brisby les traite sans lourdeur. Elle nous offre un récit bien documenté et concis à la fois, porté par une écriture simple et alerte, un récit addictif dès les premières pages qui maintient une tension constante et flirtant avec le thriller. C'est immersif et captivant. C'était La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby. On va passer à un film maintenant, Swing Rendez-vous.
Alors merci Anne. Effectivement, alors j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de vous présenter ce film parce que je suis vraiment une grande amatrice de jazz et fan entre autres du groupe musical Avalon Jazz Band dont les membres sont justement malgré eux au centre de l'intrigue et j'en suis venue donc à la découverte donc de ce film qui met à l'honneur le jazz. Ce film, c'est le premier long métrage de Jérôme Barry, qui est ici à la fois réalisateur, scénariste et protagoniste principal, rien que ça. Alors, il campe Théodore, qui est un jeune Parisien légèrement lunaire et délicieusement décalé, qui s'est mal remis d'une rupture, mais qui rêve néanmoins de vivre le grand amour. Alors, il est accompagné de deux amis aussi déprimants, mais néanmoins comiques, alias Noémie, jouée par Noémie Zetoun, et Rémi, qui est joué par Esteban. Alors, le pivot du film, et vous comprendrez pourquoi, c'est une rencontre inattendue entre Théodore et une joggeuse de la place des Vosges, Amandine, jouée par Anna Bosque Molinaro. Et il va tenter de la séduire et en même temps partir à la découverte de la partition incomplète d'un morceau de jazz auquel la légende attribue la capacité magique de faire tomber amoureux ceux qui l'écoutent. Pour avoir vérifié par la suite, c'est une légende qui existe. Réellement. Alors, après avoir combiné donc, les deux affaires, on a, si je puis dire, un sorcier qui a été consulté, alias l'attachant Bernard Pivot, qui se confond avec un bouquiniste des bords de Seine, ainsi qu'une fée très compétente en la matière, donc Ariel Dombal, désopilante à souhait. Et voilà notre amoureux en sursis qui est lancé sur les traces de la page manquante en direction de New York. Là-bas, il sera accompagné dans sa quête par d'authentiques musiciens, donc du groupe Avalon Jazz Band. On a le guitariste Manouche Vini Ragnolo, la chanteuse et actrice principale du film Tatiana Eva Marie, et le violoniste virtuose Adrien Chevalier, dans un univers musical et dansant à la frontière du Lindy Hop et du Charleston. Et autre prouesse pour moi donc, du film, c'est bien sûr la musique de Giovanni Mirabassi, puisqu'il a imaginé des standards inédits, dont The Sound of Love, qui rendent hommage aux premiers noms du jazz, comme Jelly Roll Morton, Fats Waller ou encore Duke Ellington. Et quant à l'efficacité de ce morceau, je vous en laisse juge, bien évidemment. Vous pourrez retrouver ce film sur la plateforme Arte VOD en partenariat avec la médiathèque départementale de l'Oise et peut-être bientôt en bibliothèque. Et donc, je vous dis, êtes-vous prêts pour une chasse au trésor musical? À vos marques, prêts, swingez.
Merci, Amy. Bon, bah, pour notre pause musicale, c'est quand même un tout autre genre, parce que ça va être du rock alternatif. Je vous propose un extrait du dernier album de Vampire Weekend, We've Only God Above Us. Le groupe new-yorkais est de retour après 5 ans avec ce 5e album, très réussi, qui jette un regard lucide et brut sur notre époque, affirme son envie de remettre en question le monde dans lequel nous vivons. On va écouter le tout premier des 10 morceaux de l'album, Ice Cream Piano, qui passe d'une entame langoureuse à une envolée rythmique et une explosion instrumentale galvanisante.
Fuck the world. You said it quiet. No one could hear you. No one but me. Cynical, you can't deny it. You don't want to win this war, 'cause you don't want the peace. Armistice, we never tried it. You're a soldier. Singer who won't sing.
Vous écoutez le rendez-vous culture des bibliothèques. Et Yann va nous parler d'une BD qu'il a adorée.
Oui, une BD que j'ai trouvée à la Bibliothèque Saint-Corneille, dernier week-end de janvier, de Bastien Vivès, paru en 2022, donc avant les fameux pseudo-scandales concernant Bastien Vivès, qui est vraiment un auteur de BD qui compte vraiment en France, qui a un style bien particulier, avec des personnages assez vagues et en même temps assez précis, qui reflètent bien leur personnalité et dans laquelle on peut également se retrouver. C'est des messieurs et des madames, mesdames tout le monde. Les femmes correspondent souvent à un type qui doit, auquel doit être sensible Bastien Vivès, puisqu'on retrouve souvent des traits similaires chez ces personnages féminins. Et là, en fait, ça se passe à le week-end du Festival d'Angoulême de BD. Donc du jeudi au dimanche soir, et c'est très onirique, il y a des dialogues mais pas non plus trop, il prend son temps, il y a de l'énergie, donc l'histoire c'est un auteur de BD qui est un peu fatigué de son métier, qui est dans une grande série sur la Deuxième Guerre mondiale, et qui vient pour les dédicaces et en même temps voir des collègues pour des rendez-vous. Et dans une file d'attente pour faire des dédicaces, il rencontre une femme qui vient faire signer une BD pour son mari, qui est lui grand fan de BD, elle non, pas trop, et qui n'apprécie pas tant que ça le Festival d'Angoulême. En sortant de sa séance de dédicace, il va revoir la femme avec son mari. Son mari va vraiment le remercier, l'inviter à boire un coup, manger, etc. Et on sent finalement une sorte de rapprochement entre la femme qui l'intéresse beaucoup plus par le fait qu'elle soit beaucoup plus distante par rapport au monde de la BD que le mari qui est enthousiaste, qui est vraiment le grand fan, qui vient chercher toutes ses signatures, qui est en admiration devant chaque auteur de BD. Et du coup, ça nous offre à la fois une matière intimiste sur l'amour, bien sûr, sur ce qu'on devient... après 40 ans, quand les enfants grandissent, quand ils se fiancent, alors qu'on n'a jamais cherché à leur donner une éducation traditionnelle, sur son métier, sur finalement la place de la création dans un métier artistique. Et en même temps, on va aussi découvrir chez cette femme des mystères auxquels on n'aura pas les réponses. On se posera plein de questions, mais on va avoir... une espèce de suspension du temps, le temps d'un week-end qui est fort pétillant et qui vit à 2000 km/h dans le monde de la BD à Angoulême. Et donc ce contraste crée une poésie que Vivès développe très bien et est vraiment nourri de son imagination avec son propre style, avec presque, parfois, des cases quasiment vides, mais qui apportent beaucoup de sens, sur lesquelles on s'arrête. Et c'est vraiment une BD qui nous apprend à lire la BD. C'est-à-dire qu'il y a le texte, mais il y a aussi l'image, la case, et toutes les émotions, toutes les palettes d'émotions qu'on peut faire sortir avec peu de traits. Et cette BD en noir et blanc est simplement magnifique. J'ai adoré, c'est très émouvant, c'est très intéressant et on en sort avec plein de questions. Je vous la conseille et je la remets très vite en rayonnage de la bibliothèque.
Merci beaucoup, Yann. Alors, je vais vous parler maintenant d'un roman, Stella et l'Amérique. L'écrivain suisse Joseph Incardona, c'est l'auteur de La soustraction des possibles, un magnifique roman. Et il nous revient là avec ce roman jubilatoire. Stella est une prostituée de 19 ans, sensuelle, ingénue. Elle travaille dans un camping-car au fin fond de la Géorgie et elle suit un cirque itinérant. Sa meilleure amie est une voyante avec sa boule de cristal qui lui prédit des ennuis. Et un jour, Stella découvre, bien malgré elle, qu'elle accomplit des miracles grâce à son art. Les clients, quel que soit leur handicap ou leur maladie, sortent guéris de son camping-car. Elle soigne donc en faisant l'amour et ça commence à se savoir. ça afflue, il y a la queue. Et un prêtre reçoit ainsi un des miraculés en confession et s'extasie de ce pouvoir extraordinaire. Il va en référer à la hiérarchie de l'Église et les réactions vont être pour le moins inattendues. Le pape Simon II se réjouit d'abord de l'existence d'une sainte en Amérique. C'est une aubaine pour raviver la foi en Dieu. Mais quand il apprend de quelle manière elle opère, ça pose problème et ça remet le dogme en question. Contrarié, le Vatican ne peut concevoir que la grâce apparaîtrait par le péché de chair. Il suggère alors d'en faire une martyre. Et pour ça, il va faire appel à des professionnels. Il embauche donc des tueurs à gages. Deux frères efficaces et sans pitié, archétypes des affreux, qui vont partir à la recherche de Stella en interrogeant toutes les personnes l'ayant croisée et en effaçant bien leurs traces. De son côté, Stella est enlevée par le curé qui a compris, lui, son erreur d'avoir trop parlé et se sentant responsable, il a décidé de la protéger avec une idée précise en tête pour la sauver. C'est sa rédemption à lui. Il faut savoir que ce prêtre est un ancien militaire des forces spéciales qui a encore des armes cachées dans un coffre. Une course-poursuite sanglante et loufoque commence, une cavalcade éperdue jusqu'à Las Vegas qui nous fera haleter et rire à la fois. Joseph Incardona a le chic pour mêler le suspense à l'absurde et on s'amuse beaucoup dans cette histoire ébouriffante. Une comédie noire, drôle et trash, décalée et cynique, politiquement incorrecte et autant irrévérencieux, où il se moque de la bien-pensance. Les personnages sont tous truculents, avec une belle part de tendresse et de mélancolie pour l'héroïne. Il nous accroche tout au long de la lecture avec un rythme endiablé, s'affuse de partout, mais sans jamais perdre le fil de ce road trip où l'on s'amuse beaucoup et on sent que l'auteur s'amuse tout autant. D'ailleurs, il se permet de faire souvent irruption dans son récit. Il surgit pour s'interroger sur la tournure que prend son intrigue ou pour nous expliquer pourquoi il a choisi tel ou tel prénom, surtout quand un personnage se plaint du nom qu'il lui a affublé. Et il glisse beaucoup de références littéraires et cinématographiques. C'est absolument savoureux. Et si vous aimez les romans déjantés et intelligents, bah ce livre est fait pour vous, pour cet été.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Nouveau film maintenant, La fine fleur de Pierre Pinault.
Alors dans cette comédie française, La fine fleur, qui a été réalisée par Pierre Pinault, on retrouve deux hommes et une jeune femme en réinsertion. Ils sont embauchés dans une entreprise horticole spécialisée dans les roses et en déclin. Et c'est une entreprise qui est tenue par Ève Vernet, interprétée par Catherine Fraud. Alors bien que cette intégration semble risquée, elle apporte un renouveau créatif comme une hybridation sauvage et pourrait sauver l'entreprise de la faillite. Le film s'appuie sur des interprétations engagées, des acteurs qui donnent de la profondeur à cette histoire de reconstruction positive et d'une héritière soucieuse de perpétuer la mémoire de son père. Le film est cousu habilement autour de thèmes profondément humanistes, de la transmission, de l'éducation, de la fidélité, de l'héritage, du sauvetage bien évidemment, qui s'entremêlent avec un aspect presque documentaire sur la création de nouvelles variétés de roses par hybridation. Alors j'ai une mention spéciale pour Manel Fouljoc, donc alias Mélan Omerta, dont le personnage acquiert toute sa puissance et sa complexité, en acceptant progressivement de s'ouvrir à un monde complètement différent de son milieu et de sa personnalité, et en particulier lorsque ses talents se voient enfin reconnus et encouragés. Et donc c'est vraiment un film, je trouve, qui mérite d'être vu, parce qu'effectivement, en ce moment, pendant la période de l'été, ça invite vraiment à se balader dans les jardins et à redécouvrir toutes ces belles roses. Et puis effectivement, c'est un film aussi qui a été réalisé dans la Loire. Donc si vous voulez partir à la Loire pendant les prochaines vacances, c'est vraiment un film que je vous recommande en tout cas.
Merci Amy. Un dernier roman, un roman turc.
Oui, exactement. Istanbul d'Orhan Pamuk, le roman paru en 2006 qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 2006 également. Ce livre est, je pense, un très bon livre, même si j'apporterai de la nuance, bien évidemment, pour partir en vacances en restant chez soi. C'est-à-dire que c'est vraiment comme tout littéraire aime voyager à travers ses lectures. Et ici, Orhan Pamuk nous propose une histoire d'Istanbul, mais vue de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il commence par raconter son Istanbul de son enfance, montrer l'évolution de la ville, montrer le lien entre la ville et des artistes occidentaux, des artistes orientaux, et tout ça pour nous mener finalement sur une réflexion sur, toujours la même, Istanbul, Orient ou Occident. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous montre que c'est beaucoup plus compliqué que cela, et que même pour les Istanbouliotes, ben c'est compliqué, dû à leur histoire complexe, exceptionnellement riche, et il nous fait voyager. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, on n'a pas un livre de touriste, mais on a le livre de quelqu'un qui a grandi, qui a vécu, qui en est parti, qui en est revenu. Il nous met même des photos intimes, des photos moins intimes, des reproductions de tableaux, quand il parle des auteurs, la façon dont ils ont raconté, par exemple, Nerval ou Gautier. Et toujours avec une nostalgie. Au lieu d'être simplement dans la beauté des lieux, il va toujours raconter aussi la misère, les gravats, les ruines, les incendies, les tempêtes de neige, la pauvreté, etc. Mais finalement, ça nous la rend beaucoup plus vivante et on a encore plus envie d'y aller. La seule nuance que je poserai, c'est qu'à un moment, il parle de la façon dont parlaient certains journalistes istanbouliotes d'Istanbul. J'avoue qu'en tant qu'occidental non spécialiste d'Istanbul, à ces moments-là, le livre me tombait un peu des mains. Parce que, d'accord, ok, tu critiques ce journaliste, t'en parles, mais moi, ça ne me dit rien. Ça ne me parle absolument pas. Quand il parle de Nerval, quand il parle de d'autres auteurs français qu'on parlait, ou même anglais, hein, qu'on parlait d'Istanbul et tout ça, oui, bon, c'est bien, mais il suffit de lire, dans ce cas, les livres, les passages où ils traitent d'Istanbul, et on se fait très bien l'idée qu'ils s'en font. Donc là, on est plus dans le commentaire autour de la façon de traiter Istanbul, ce qui n'est pas inintéressant, mais on a parfois l'impression qu'il allonge un peu trop la sauce pour faire durer le livre. C'est un peu dommage. En plus, dans l'édition de poche, alors là, je ne sais pas, je n'ai que l'édition de poche, mais il y a des photos, alors elles sont petites, on comprend qu'elles étaient en noir et blanc, mais du coup, la qualité fait que parfois, c'est simplement illisible, et du coup, bah, ça gâche un peu le plaisir. Mais sinon, le concept est bon, c'est-à-dire qu'il est entre l'essai géographique, l'essai géopolitique, le roman autobiographique, très intéressant, complexe. Par exemple, pour ceux qui veulent une lecture pour l'été, juste pour se détendre, j'irai pas là-dessus, j'irai plus sur Mythos de Stephen Fry. Mais je comprends pourquoi il a eu le prix Nobel de littérature. Et c'est intéressant. Donc si on veut faire un vrai voyage et qu'on n'a pas les moyens d'aller à Istanbul, comme moi, je suis prof, n'hésitez pas à lire Istanbul d'Orhan Pamuk. Là, au moins, voilà, vous avez du contenu, vous avez de la matière et il y a assez de pages où on peut contempler et on peut rêver sur Istanbul.
Parfait. Merci Yann. Vous pouvez retrouver tous les titres présentés sur notre site internet. Pour nos animations, nos prochains événements, le mercredi 3 juillet à 16h aura lieu le prochain atelier Fab Lab à la bibliothèque Mourichon pour s'initier à l'utilisation d'une imprimante 3D, une découpe laser ou vinyle. Que tu aies déjà une idée de création en tête ou non, viens découvrir le Fab Lab de la bibliothèque. Samedi 6 juillet, à partir de 15h, on vous propose une nouvelle rencontre avec l'UTC sur le thème de la recherche scientifique pour garder la forme. Découvrez les travaux de recherche réalisés à Compiègne autour du sport par différents chercheurs du laboratoire de biomécanique et de bio-ingénierie de l'UTC. Vendredi 12 juillet, à 16h, on vous propose une nouveauté, un cours de yoga à la bibliothèque avec Larissa Roy, la créatrice du studio Sound Yoga à Compiègne. Larissa vous fera découvrir le yoga avec bienveillance et convivialité, avec une pratique douce et adaptée à tout niveau. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et merci à mes chers chroniqueurs, Amy, Yann et à la technique Aurore. Nous nous retrouvons après la pause estivale pour notre prochaine émission le vendredi 27 septembre à 18h et pour notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque le vendredi 4 octobre. D'ici là, nous vous souhaitons un très très bel été avec du soleil et des découvertes culturelles à foison.